Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous recevons Jean-Baptiste Noé. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Alors Jean-Baptiste Noé, c'est le rédacteur en chef de ce magazine que j'espère vous connaissez, à savoir Conflit. Le magazine de, c'est un bimensuel en l'occurrence, donc le magazine là de mai-juin a comme dossier central le golf. Qui sera le maître? Évidemment, bon, c'est une zone qui est assez scrutée en ce moment. Alors, vous ne parlez pas que de la guerre en Iran, vous parlez même essentiellement du reste, c'est-à-dire notamment toute la péninsule en fait arabique, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de cette péninsule, les luttes politiques, les luttes de frontières, et puis un petit peu ce qui se passe en ce moment, quelles sont les dynamiques actuelles depuis quelques années. Donc, il y a un retour, par exemple, sur une décennie au pouvoir de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Enfin, voilà de quoi nous allons parler essentiellement. Il y a d'autres articles, il y a un reportage, par exemple, sur l'évolution de la guerre des drones en Ukraine, un
Ça, c'est un
reportage
homme
que je trouve remarquable.
remarquable. Il a 25-26 ans, Murray Wegler, qui est un journaliste qui est en Ukraine depuis plusieurs mois et qui a fait un reportage magnifique avec des photos superbes sur les drones. Il suit ça depuis très longtemps. Et pour nous, c'était important aussi de mettre en avant des gens de cette qualité et de montrer des gens très courageux. Hein, ils prennent des risques aussi. Et c'est aussi une manière de rappeler que l'information, la bonne information, ça a un coût et qu'il y a des gens qui risquent leur vie pour ça. Parce que lui, il est sur la ligne de front et il peut mourir avec les soldats qui suivent. Donc c'est.
C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait des reporters de guerre, des correspondants de guerre. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus tellement, quoi. Je ne sais pas où ils sont, mais on ne les voit plus. Et
Alors, pour une raison qui est due notamment aux assurances, c'est que le prix les journalistes sont assurés et le prix a triplé. C'était autrefois 5 000 euros, il y a encore 10-15 ans. Maintenant, c'est près de 20 ou 25 000 euros par jour. Donc ça c'est tellement onéreux que beaucoup de médias ne peuvent plus en envoyer. Donc il n'y a que des gens indépendants qui, eux, n'ont pas d'assurance.
Alors donc, je voudrais intervenir ici en tant que grand ancien. Pourquoi vous êtes là? C'est parce que vous avez pris le contrôle de Conflit il y a combien de temps?
C'était en 2019.
2019, donc vous
Voilà.
commencez à avoir l'âge de raison
Ouais.
quasiment. Et vous en avez fait un journal qui a beaucoup de suivi. Et il se trouve que, comme je l'avais signalé il y a quelques années, ici même d'ailleurs, ce journal, j'en suis un petit peu propriétaire, pas un petit peu même beaucoup, et c'était avec Causeur et avec Transition Énergie, et que pour des raisons diverses et variées, nous avons décidé à l'Institut des Libertés de nous consacrer complètement à Conflit. Donc vous allez nous avoir sur le dos tout le temps.
J'en suis très honoré.
Donc vous faites pas de cadeaux, on va pas vous faire de cadeaux, mais surtout ce qu'on voudrait faire, si vous voulez, c'est qu'on se place dans l'esprit de l'Institut des Libertés, qui est d'enseigner, et d'enseigner des choses utiles. Et depuis 6 ou 7 ans, on peut dire quelque chose, en tout cas, c'est que la géopolitique, l'ouverture, le monde qui change, ça. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse maintenant faire des commentaires intelligents sur ce qui se passe même en France, sans avoir une espèce de recul sur ce qui se passe dans le monde, et l'histoire, les historiques, etc. Vous m'avez appris, par exemple, des choses sur la croisade qui a repris Constantinople, vous savez, qui a foutu en l'air, dans le fond,
L'Empire byzantin.
L'Empire byzantin, c'était. Je savais qu'on avait fait une connerie là, mais celle-là, je l'avais un peu oubliée. Donc, il n'y a pas que de il n'y a pas que de l'actualité. Et donc, l'idée, c'est que vous avez aussi pris Conflit et vous commencez à faire un master autour de Conflit.
Exactement. Ça, c'est la nouveauté, la rentrée 2026. Donc, on crée un master géopolitique et défense, alors qui est assez original parce qu'il y a trois partenaires. Donc, il y a Conflit pour la partie académique, géopolitique. Une école de journalisme de Paris qui est l'EAJ Paris, qui est la plus ancienne école de journalisme au monde.
Dont le contrôle vient d'être pris par une série de gens qui pensent plutôt bien, quoi.
Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré. Voilà. Donc, ils veulent avoir une école de journalisme pour former des journalistes bien et qui travaillent après puissent travailler dans leurs médias. Et un troisième partenaire auquel on tenait beaucoup, qui est l'université qui est à Rome, qui s'appelle la LUMSA. Et donc, c'est un master franco-italien. Et on y tenait pourquoi? D'abord parce que nos étudiants auront le grade de master. Vous savez qu'en France, il y a l'État, le monopole sur beaucoup de choses, et notamment sur les grades universitaires. Mais il y a les accords de Bologne, qui sont des accords européens, qui fait qu'un étudiant qui a un master dans un pays européen, ce master a valeur légale en France. Et donc là, nos étudiants auront le master italien qui aura cours légal en France. Donc une manière de contourner le monopole. Et on voulait aussi une formation franco-italienne parce qu'en Italie, ils ont de très très bons universitaires, de très bons professionnels et de très belles entreprises, notamment dans le domaine de la défense. Je pense à Leonardo, qui est un des leaders dans son domaine, dans le pétrole également avec Eni. Donc c'est un master très original parce que vous avez beaucoup de masters géopolitiques qui sont que français. Et nous, on est le seul qui soit vraiment européen avec des cours qui sont à Paris et à Rome. Alors les cours sont filmés et diffusés pour que les Français n'aient pas à aller à Rome sans arrêt. Donc ils pourront suivre les cours filmés. Et il y a un système de traduction automatique pour ceux qui ne parlent pas italien. Voilà, donc c'est un master unique en son genre. Trois partenaires européens, franco-italiens et très axé sur le professionnel.
Voilà, surtout ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'encore une fois, c'est dans l'enseignement. Et l'enseignement qui vient pas d'enseignement professionnel, mais de gens qui connaissent leur sujet sur le terrain, si j'ose dire, vous voyez à qui je fais allusion, à l'Institut des Libertés, à l'Université d'Épargne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que cette structure que nous avons mis au point de gens compétents qui ensuite enseignent, on va peut-être, je discute, comme vous le savez, avec quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Xavier Roffer, qui s'intéresse beaucoup lui au problème de la... tous les gens pas bien dans le monde, quoi. La criminalité.
C'est ça.
Donc, si vous voulez, d'essayer de monter lentement mais sûrement une espèce de source de connaissances libre et compétitive. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous en serez le deuxième pilier. Donc, je suis déjà très heureux de vous avoir aidé. Mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir et à quel point il faut aider à conflit. Je vous le dis pas. Non pas parce que c'est moi qui vais tout raquer, je m'en fous ça, mais c'est simplement parce qu'il faut que ce genre de connaissances se diffuse. Donc il faut que vous vous abonniez, vous avez 6 numéros par an, puis vous pouvez les garder parce qu'il y a des dossiers qui sont quasiment intemporels. Quoi.
Tout à fait, souvent même.
Et puis il y a des articles sur le site internet tous les jours qui sont des articles originaux. Donc il y a le magazine, le site. Et moi ce qui m'a beaucoup marqué depuis que je m'occupe de conflits, c'est de voir qu'il y a énormément de gens très bien, de très bon niveau, qui connaissent parfaitement leur sujet, mais qui n'ont pas accès à la transmission. C'est-à-dire que ni aux médias, ni comme vous faites. Exactement. Et donc mon métier, en fait, c'est un métier de chef d'orchestre. C'est-à-dire de réunir des gens qui sont très compétents, il y en a beaucoup dans ce numéro, qui sont très contents d'être publiés et qui ont des choses intéressantes à dire parce qu'ils connaissent vraiment leur sujet. Mmh. Et c'est aussi une manière de lutter un peu contre la déprime ou l'idée que le déclin. Non, on a en France des gens de toute génération qui sont de très bon niveau et qu'il faut mettre en avant.
Qu'il faut mettre en avant et qui ont... Et que quelque part, vous savez, j'avais lu quelque part, c'était un universitaire, imaginez-vous, algérien qui enseignait au Québec, mais que j'aimais beaucoup. Je ne retiens pas son nom, mais il disait, il y a les créateurs de culture, il y a les diffuseurs de culture, il y a les consommateurs de culture. Et ce que j'ai vu en France depuis une trentaine d'années, c'est que les diffuseurs de culture ont prétendu être les créateurs de culture et ont barré les créateurs de culture, les gars qui savent vraiment quelque chose, et on a plus que des médiocres qui nous expliquent des idées que tout le monde a, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le but de le conflit, le but, c'est de redonner la parole aux créateurs de culture.
Et ils sont nombreux.
Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Et ils se sentent tout seuls. Et, et ils sont pas tout seuls parce qu'ils sont nombreux, mais ils savent pas comment se réunir.
Effectivement, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez failli dire à un moment donné créateur de contenu. Et en fait, on a un peu dérivé justement ces dernières années de la culture au contenu. C'est-à-dire, en fait, on a de la matière un petit peu en permanence. Et moi-même, je suis un peu victime de ce truc-là. Et donc, quand je recherche des informations sur l'international, j'ai cherché en général une grande masse d'informations et à court terme. Et beaucoup de gens d'ailleurs recherchent un petit peu la même chose. Et ça va participer à ce bruit ambiant qu'on retrouve sur les chaînes d'info où finalement, on a cette espèce de bruit de permanent, mais à la fin de la journée, même si on a regardé tous les programmes, on n'est pas sûr d'avoir appris grand chose sur ce qui se passe et d'avoir l'esprit plus clair.
C'est-à-dire que les mêmes répètent les mêmes banalités. Et c'est pas parce que 25 personnes répètent la même banalité que d'abord c'est vrai et ensuite que vous avez appris quelque chose.
Ouais, en plus de ça, très souvent ça reste très en surface. Enfin voilà. Bref. Et donc c'est vrai que Conflit, un magazine comme ça, c'est vraiment extrêmement utile. C'est, typiquement, quand on reprend là votre dossier sur le golf, on va en parler pendant cette émission, il y a des retours historiques, enfin bref, c'est comme vous avez dit, c'est assez intemporel, et ça, ça participe vraiment à la création de culture, pour le coup, et pas juste de contenu. Et à la fin, quand on a lu un article, bon bah, on a l'impression de voir les choses de façon un petit peu plus claire et de pouvoir d'ailleurs mieux digérer et comprendre ce qui se passe derrière à court terme, parce que justement, on a ce retour finalement global,
si
historique,
prenez,
ce déjeuner.
Si vous prenez le monde dans lequel le conflit se passe, il y a quand même cette vieille séparation qui existe depuis très longtemps au Moyen-Orient entre les chiites et les sunnites. Mmh. Bah, ceux qui n'intègrent pas ça dans leur calcul, bah, ils ont du mal à comprendre exactement pourquoi ils s'aiment pas, quoi. C'est...
Tout à fait. Et alors, dans cet article, d'ailleurs, c'est l'article qui ouvre le dossier sur le Golfe. C'est votre article, d'ailleurs,
voilà, introductif.
Voilà, donc sur l'arc chiite, pôle sunnite, où vous parlez un petit peu, finalement, à partir de la Seconde Guerre mondiale, de l'évolution des principaux pôles de pouvoir, finalement, entre Proche, Moyen-Orient. Et vous dites que, en fait, ça s'est déplacé au début, c'était vraiment plutôt du côté de l'Égypte. C'était l'Égypte qui était un peu le grand maître de la région. Et que ça a un petit peu basculé au fil des années, peut-être vers un arc davantage chiite, en fait.
Oui, il y a une bascule ces années 1960-1970. C'est-à-dire que le monde arabe cultivé, développé, c'est la Syrie, Damas, Alep, c'est le Liban, Beyrouth, c'est le Caire. C'est là qu'il y a les intellectuels, qu'il y a les chanteurs, Oum Kalsoum par exemple, Férouz.
Alexandrie aussi.
Alexandrie, exactement. C'est là qu'il y a l'élite cultivée, alors qu'elle est notamment héritière de l'Empire ottoman, où les villes avaient concentré des Arméniens, des Arabes, des Juifs, des Chrétiens. Et tout ça a vécu jusque dans les années 1950-1960, avec un déclin alors qui est dû à plusieurs causes. Il y a le problème de la guerre, problème en Égypte de mauvaise, très mauvaise gestion, notamment de Nasser. Et puis, au même moment, on a l'émergence dans le Golfe, avec le pétrole, de nouveaux pays qui étaient méprisés, parce que les Saouds sont des bédouins du désert méprisés par notamment le Hussein et les Hachémites, qui eux étaient en Jordanie, mais c'est eux qui ont l'argent. Et donc, avec l'argent, bah, ils développent leur pays, et ça fait une bascule entre une région déclinante et une région émergente. Et la grande intelligence des Émirats ou de l'Arabie Saoudite ou du Qatar à partir des années 2000, c'est d'avoir commencé une diversification. Et aujourd'hui, les Émirats, souvent, on en a l'image un peu, c'est les influenceuses et puis le pétrole. C'est pas que ça. C'est que la France, c'est pas que le festival de Cannes et le vin. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis vivent essentiellement sur l'industrie. Il y a énormément de pôles industriels, et j'en ai visité notamment en janvier, c'est très très impressionnant à voir, sur la finance, la matière grise, et puis d'avoir capté une partie du monde. Et le basculement, donc c'est un basculement, on va dire, entre un monde arabe méditerranéen et un monde arabe golfe persique, et ce basculement est aussi un basculement entre l'Europe et l'Asie, parce que le monde arabe méditerranéen regarde vers l'Europe, hein, essentiellement, et quand on est aujourd'hui aux Émirats, quand on est à Oman, en fait, on est en Asie. Les Arabes sont minoritaires, ils sont 10% à peu près. La population vient essentiellement d'Asie, donc pakistanais, indiens, Bangladesh. On est en face de l'Iran, en face de l'Afghanistan. Et donc, on voit très bien physiquement comment ce monde arabe-là est pas tant un monde arabe européen qu'un monde arabe asiatique. Et Dubaï, aujourd'hui, c'est le point de rencontre entre l'Asie et l'Europe, parce qu'en avion, bah, vous êtes 6-7 heures de vol, vous êtes à Dubaï.
Et tout à fait. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce monde arabe qui est tourné vers l'Asie n'était pas un monde arabe guerrier.
Non.
C'est-à-dire que nous, on s'est toujours opposé, si j'ose dire, aux musulmans en Europe, parce qu'on se mettait sur la gueule avec beaucoup d'entrains, surtout. Bon. Tandis que c'était plutôt un islam commerçant, c'est-à-dire c'était... donc c'est pas, ils sont pas les mêmes racines guerrières.
Complètement. Et d'ailleurs, il y a un choix stratégique qui est très intéressant, qui était notamment fait entre l'Iran et puis les Émirats. Les Émirats ont fait le choix de l'argent et du développement matériel, en disant bah, on est musulman, mais on n'est pas islamiste et on va pas mettre en avant l'idéologie musulmane. D'ailleurs, on consomme du vin librement et il y a des femmes qui sont légèrement vêtues sans problème. Alors que l'Iran a fait le choix davantage de l'idéologie et quitte à ce que le PIN se développe pas, alors que l'Iran avait quand même beaucoup plus de potentialité. Et aujourd'hui, on voit que les Émirats, le Qatar et l'Arabie Saoudite étaient un peu plus dans cette logique idéologique islamiste. Enfin, ils en reviennent un petit peu quand même. Et donc, il y a un choix qui a été fait, qui suscite aujourd'hui beaucoup de jalousie, parce qu'évidemment vous avez, en fait c'est l'exemple des Arabes qui ont réussi, alors que notamment en Syrie ou en Égypte ils ont fait le choix du baasisme, qui est en fait socialisme nationaliste, et là ça a échoué.
Et donc,
Oui, c'est curieux. C'est là aussi, ça a échoué, oui.
Là aussi, dites-moi un endroit où ça a réussi. Mais, donc, ce que vous dites est intéressant, mais quand vous revenez au départ aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'en de 48 à 55, tous les juifs ont été expulsés des pays musulmans. Enfin, ils se sont barrés, quoi. Donc, il y avait une espèce de Alep, quand j'étais jeune, vous aviez, le quart de la ville était juif, et puis vous aviez plein de juifs à Bagdad aussi. Et donc, vous aviez les chrétiens, les juifs, comme vous l'avez dit, les arméniens, les musulmans, les chiites. Donc, c'était une espèce de mélange. Et puis là, il y a eu une purification ethnique qui s'est passée, tous les juifs sont partis. Et c'est ce que disent souvent. Et ça a beaucoup changé la nature du Moyen-Orient.
Complètement, oui.
Parce que quand on peut dire tout ce qu'on veut des juifs, mais en général, ils ont une espèce de fascination pour l'étude, pour les étoiles, c'était tous les docteurs ou les. Et donc il s'est passé, ils ont perdu un petit peu comme l'Espagne quand ils ont viré leurs juifs. Là,
c'est. Ce qui est intéressant, c'est si je prends le parallèle entre l'Égypte et les Émirats, ils ont fait deux politiques complètement différentes. En 1956, au moment de la crise de Suez, Nasser, nationalise le canal de Suez, mais surtout, et ça c'est beaucoup plus grave à long terme pour l'Égypte, il a expulsé les Européens, dont certains étaient là depuis des siècles. Donc les Italiens. Dalida, par exemple, était égyptienne, mais elle est italienne, Claude François aussi, les Arméniens, des Français, des Anglais. Et donc, ça, c'était l'élite entrepreneuriale cultivée, lettrée, qui a été chassée. Et donc, le pays a connu un effondrement économique. Que font les Émirats arabes unis aujourd'hui? Ils font exactement l'inverse. Ils attirent les meilleurs. Ils disent, venez, vous aurez facilité fiscale, confort de vie très important, vous gagnerez beaucoup d'argent. Et donc, eux, ils attirent en fait toutes les élites européennes, ce qui fait que quand on est à Dubaï, on peut acheter du fromage, du brie, qui est à peu près le prix de Paris d'ailleurs. On peut acheter du vin français et on peut vivre comme à Paris, avec une population qui est très universelle et très mondiale, parce qu'ils attirent les meilleurs.
Vous savez ce qu'a fait la Turquie, là, hier ou avant-hier?
Non.
La Turquie, ils ont dit, vous pouvez venir, si vous êtes un étranger, vous pouvez venir vivre à Istanbul, et pendant 20 ans, vous ne paierez pas d'impôts. Mmh. Donc, ils
exactement.
Ils essayent de les faire venir aussi.
Ce qui a toujours été la vocation de Constantinople, c'est être une ville cosmopolite internationale.
Bien sûr, c'est toujours été, comme la plupart des grands empires.
Oui, c'est ça. Donc là, on attire les bacs plus 10.
Oui, là, on attire, en effet, on attire d'autres gens, pour d'autres raisons.
Alors, c'est très intéressant. C'est des nouvelles cités-États, c'est un peu des nouvelles Venises, les Émirats arabes unis, etc.
Et on voit d'ailleurs même sur le domaine architectural, l'architecture est aussi un reflet du pouvoir. Oui. L'architecture dit toujours quelque chose de la philosophie politique d'un pays. Et on le voit avec le Burj Khalifa, qui est la plus haute tour du monde, avec les marinas construites sur la mer, avec l'aéroport. J'aime beaucoup, quand je suis dans les aéroports, regarder les villes où vont les avions. Ça dit très bien comment un aéroport est inséré dans le monde. Oui. Et à Dubaï, on voit qu'on peut aller dans le monde entier, sauf l'Amérique latine, là c'est beaucoup plus loin, mais il y a quand même quelques vols. Mais on voit très bien le carrefour mondial.
Oui, complètement. D'ailleurs, il y a énormément de voyages qui s'arrêtent là pour reprendre ensuite.
Ils vont après en Asie. D'ailleurs, ils ont été bloqués lorsqu'il y a eu la guerre. Ouais. Beaucoup de gens étaient bloqués à Dubaï, mais en fait, ils venaient du Vietnam ou de Thaïlande et c'était une escale.
C'est une vraie plateforme multimodale, en fait, à cet égard-là.
Je me souviens, il y a longtemps, quand j'étais à Londres, j'allais très souvent aux États-Unis et j'essayais toujours de trouver les avions les moins chers pour les États-Unis et c'était Koweït, parce que l'avion allait de Koweït à Londres et puis de Londres à New York. Et puis à New York, c'était quasiment gratuit parce que tout le monde avait payé pour le premier et pour le deuxième mois. Donc j'allais. Mais le seul truc, c'est qu'il n'y avait pas de pinard. Alors j'arrivais avec une bouteille de Bourgogne toujours.
À l'époque, on pouvait prendre une bouteille de vin à l'avion.
J'avais avec une bouteille de vin et je la partageais toujours avec l'Américain qui était à côté de moi, qui était très content. Mais donc si vous voulez, il y a cet aspect neutre communication, c'est-à-dire que je crois qu'on va voir naître dans les années qui viennent, c'est-à-dire des nouveaux nœuds de communication, c'est-à-dire Dubaï pour eux, parce que c'est l'Asie et puis c'est l'Afrique et puis c'est le Moyen-Orient et puis vous allez en avoir apparaître. Moi, je dis toujours Trébizon devoir devenir la ville la plus chère du monde là-bas parce que c'est la route vers la Chine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit reparaître des nœuds de communication qui avaient disparu avec le communisme et puis pouf pouf pouf, on les voit se remettre en place.
Et d'ailleurs, c'est parfois des routes très anciennes. Dubaï est un port depuis depuis très longtemps. Il y a Holcim qui faisait le commerce de la perle, des perles d'ailleurs, vers l'Inde et vers l'Europe. Et à côté, il y a Oman. Quand on est à Masca, d'ailleurs, qui est une ville charmante, pas très grande, mais très belle ville. Et là, on est vraiment dans le commerce vers l'Inde. Et c'est très impressionnant de voir des magasins indiens, de la nourriture indienne, une population indienne. On est plongé en Inde quand on est à Oman.
Alors c'est très curieux, c'est intéressant parce que j'ai lu un livre, vous avez peut-être eu l'occasion de lire, de Dalrymple, vous savez, cet historien britannique, qui a montré dans un de ses derniers livres que tout le monde parle du commerce Europe-Chine avec les grandes routes de la soie et tout. Il dit, mais quand on regarde les vrais chiffres, qu'est-ce qu'il a fait ? L'Europe commerçait beaucoup plus avec l'Inde qu'avec la Chine.
Oui.
C'est-à-dire, c'est intéressant parce que vous, il vous montre les routes du commerce vers l'Inde qui sont en train de se rouvrir à toute allure. Quoi.
L'Inde, c'est pour moi un pays qui passe trop sous les radars, on n'en parle pas assez, oui, alors c'est un pays très intéressant. D'ailleurs, c'est une des bonnes choses qu'a fait Emmanuel Macron, il faut quand même souligner aussi quand il y a des bonnes choses de fait, ce sont les relations avec l'Inde. Il a accueilli en grande pompe Narendra Modi à Paris il y a 2 ans, il a resserré les liens avec l'Inde. C'est très important parce que c'est un pays qui est en plein essor et qui est une puissance d'ingénierie industrielle importante.
Oui, et qui est intéressante parce que quand vous allez en Chine, bon, il y a cette immense évolution du nombre d'ingénieurs qui font, c'est énorme, mais vous ne voyez pas de mendicité du tout en Chine. Mais ce qu'il y a de curieux en Inde, c'est que vous avez le mélange du type qui meurt de faim à la gare, là, et d'une bourgeoisie qui fait 400 ou 500 millions maintenant. Donc, le développement de la Chine s'est fait de façon assez homogène, où tout le monde a été sorti. Ouais. En Inde, il y a une différence.
C'est énorme, oui. Très inégalitaire.
Très inégalitaire. Et une partie de la population là-bas qui est laissée dans le trou, elle est même pas éduquée. Donc, le vrai problème, c'est. Ils ont un gros problème qui est comment vont-ils éduquer les. Donc, la différence entre la Chine et l'Inde, c'est prodigieux, quoi. Donc, bref.
Et si on va un petit peu plus loin encore, on a l'arc chiite. Et alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'arc chiite ?
Alors, ça, c'est donc une distinction qui s'est faite dans l'islam dès les premiers temps de l'islam, entre, on va dire, la branche qui a suivi Mahomet, donc on appelle les sunnites, sunna, c'est la tradition. Et puis, il y a une rupture, comme à chaque fois, une fois que le fondateur meurt, les héritiers se disputent. Et donc, cette dispute des héritiers, ça donnait le chiisme. Donc, chiisme, ça vient de rupture, de schisme. Et là, c'est un islam alors qui est très présent en Iran, où les Iraniens sont majoritairement chiites. Mais il y a des populations chiites qui peuvent être perses, ou arabes, qui sont présents dans d'autres pays dans la région. En Irak, par exemple, c'est à peu près 20% de chiites. Peut-être même plus, oui.
Plus, je crois que tout le sud de l'Irak est chiite.
Exactement. En Azerbaïdjan, et puis après un peu dispersé, notamment en Palestine.
Il y a les Alaouites qui sont un peu... On ne sait pas trop ce que c'est.
Voilà, exactement. Eux-mêmes, parfois, ont du mal à se positionner.
Voilà. Non, ils n'ont pas de mosquée, donc ils ne savent pas.
Et donc ça, c'est là une guerre un peu permanent. Il y a à la fois un conflit, on va dire, religieux entre sunnites et chiites et un conflit ethnique entre arabes et perses. Et un conflit entre la Perse et l'Iran aujourd'hui qui a quand même une civilisation très ancienne et très homogène et fondée sur les villes et l'empire, alors que les Arabes étaient fondés sur le nomadisme et donc une vision complètement différente de la pensée politique.
Il y avait dans le temps celui qui avait protégeait un peu tout ça, c'était les sunnites en Turquie. Et puis, parce que ça a toujours été la bagarre entre la Perse et la Turquie, ça remonte à la nuit des temps. Mais là, les Turcs, ils sont très forts à nouveau, mais ils interviennent assez peu dans cette bagarre en ce moment. Enfin,
ils se disent qu'il vaut mieux laisser les gens s'affaiblir, et puis après, ils prendront la mise une fois que tout le monde sera affaibli.
C'est ce que disait Napoléon, quand vos ennemis font une erreur, surtout vous les interrompez pas.
C'est ça.
Et alors, vous expliquez justement que depuis l'attaque du 7 octobre 2023, cet axe chiite s'est considérablement affaibli. Il y a plusieurs alliés de l'Iran qui ont été dans des sérieux problèmes. Bon, déjà, il y a la Syrie d'Al-Assad qui est tombée. Qui était à la Houthi. On peut parler du Venezuela. Alors, le Venezuela n'est pas un pays chiite à proprement parler, mais enfin, c'était des alliés de l'Iran qui forcément voient son régime se modérer un peu depuis les événements de janvier dernier. Et est-ce qu'il y a d'autres sources d'affaiblissement, ou est-ce que aussi on peut se poser la question de la véritable résilience de l'Iran, alors peut-être pas dans le cercle international, mais l'Iran lui-même par rapport au conflit qu'on voit en ce moment.
Alors la stratégie de l'Iran, c'était une question à la fois de défense et d'attaque. Donc pendant longtemps, l'Iran a voulu avoir l'arme nucléaire, qui est une manière de se protéger et d'attaquer éventuellement ses ennemis. Et puis voyant que ça allait être difficile, mobiles, ils ont développé une autre stratégie qui est celle des proxys. Donc, ça s'appelle des proxys. Ce sont des entités qui sont financées par l'Iran, plus ou moins contrôlées par l'Iran, mais qui agissent en leur nom propre. Et donc, il y a les Houthis au Yémen, le Hezbollah, le Hamas, et puis également la Syrie. Et donc, c'était eux qui attaquaient, notamment Israël ou les Arabes, avec le soutien de l'Iran. Donc, pas une attaque directement de l'Iran, mais une attaque de ses alliés. Les Houthis, par exemple, en étant au Yémen, ben, quand ils peuvent bloquer la mer Rouge et donc le canal de Suez. Et donc ça, ça pénalise beaucoup, notamment l'Égypte, dont une grande partie de l'économie repose sur le transit de Suez. Donc les Iraniens ont fait ce système de proxy dans le monde arabo-musulman. Et puis, ce qu'ils ont appelé ensuite l'axe de la résistance ou l'axe bolivarien, donc trouver des soutiens et des relais au niveau international, notamment avec la Bolivie et avec le Venezuela. Alors ça peut surprendre parce que c'est quand même un autre monde. Mais ils avaient des liens en commun. D'abord le pétrole, ce sont des producteurs de pétrole, et puis la haine des États-Unis. Et finalement, bah, il y a cet axe qui s'est fait entre Hugo Chavez, Nicolas Maduro, la Bolivie et puis l'Iran, qui d'ailleurs, au niveau mondial, est très intéressant parce que le Venezuela et la Bolivie, ont, et avec Cuba aussi, ont recyclé une grande partie de leur argent ou de la vente de pétrole en sous-main en finançant les mouvements de gauche radicaux en Amérique latine, donc Brésil, Argentine, Chili, mais également en Europe. Donc on sait aujourd'hui par exemple que le parti comme Podemos en Espagne a été financé directement par Hugo Chavez et sa suite. Il y a de grandes interrogations sur LFI. On connaît pas exactement les sources de financement de LFI, mais si tous les autres partis de gauche radicale ont été financés par les bolivariens, connaissant les liens proches...
Alors, ça pose une question qui est intéressante, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, l'argent, c'est que des 0 et des 1 dans un ordinateur. Donc si on voulait savoir... D'où vient l'argent de LFI, c'est pas très difficile.
Ah, on pourrait le savoir, oui, bien sûr.
Non, ça peut être fait en 10 minutes oui. D'audit, quoi. Donc, c'est qu'on ne veut pas que l'on.
C'est qu'a priori, on ne veut pas.
A priori, on ne veut pas le dire. Mais pourquoi? C'est une question qui n'a rien à voir avec le débat. Mais...
ça, bah, il faut demander à ceux. Je crois qu'il y a un PNF, Parquet National Financier, et eux pourraient peut-être s'en charger. En tout cas. Il faudrait lever le doute parce que
ça me paraît plus important que de coincer Monsieur Fillon. Quoi.
Voilà, on sait que Podemos, que les partis de gauche en Amérique latine ont de l'argent directement du Venezuela et de la Bolivie, donc posons-nous la question à cette partie de gauche en Europe.
Oui. Vu la fascination en plus personnelle de Jean-Luc Mélenchon.
C'est une amitié personnelle, hein. C'est pas simplement un accord. Et alors, un autre aspect intéressant, c'est la question de la drogue. Et oui, c'est là où la réflexion géopolitique, c'est réfléchir à plusieurs échelles, ce qu'on appelle en langage technique une pensée multiscalaire. Donc l'échelle locale, l'échelle régionale et puis l'échelle mondiale. Et quand on réfléchit à plusieurs échelles, on voit comment les choses sont imbriquées. Donc là, on a l'Iran et puis ses alliés, notamment Venezuela et Bolivie. Et il y a un autre sujet qui est la question de la drogue, qui repose beaucoup notamment sur la diaspora palestinienne parce que et libanaise. Beaucoup ont été en Afrique et en Amérique latine. Par exemple, un ancien président du Brésil, Michel Temer, était libanais. Et vous avez beaucoup de Libanais également qui sont dans le golfe de Guinée, en Afrique. Des Libanais musulmans, dont certains sont liés au Hezbollah ou au Hamas. Et donc là, on a un trafic de drogue qui s'est mis en place dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières en Amérique latine. Donc c'est une zone où il y a les chutes d'Iguassu. Donc c'est très très beau. Mais il y a le Paraguay, le Brésil et l'Argentine, et c'est très peu contrôlé par les États. Donc là, beaucoup de production de drogue, et on sait que le Hezbollah et le Hamas sont présents. Cette drogue qui transite après par l'Atlantique via le golfe de Guinée, qui après remonte via l'Afrique et sert à financer une partie du Hamas et une partie du régime iranien. Donc on a des ramifications qui nous amènent jusqu'en Amérique latine, et après la cocaïne qui va être consommée en France ou ailleurs en Europe.
Parce que c'est un des gros sujets d'inquiétude de Xavier Hofer, cette espèce d'explosion de l'offre de cocaïne.
C'est impressionnant. Enfin, c'est un vrai problème.
Parce qu'on puis derrière, c'est une façon aussi de peser politiquement, géopolitiquement, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. C'est très intéressant.
Ah ben si vous, avec la drogue, vous détruisez les sociétés. C'est ce que disait Lee Kuan Yew. Il disait, ben, écoutez, vous êtes gentil, mais...
Alors ça d'ailleurs, ça a été théorisé par des gens d'Al-Qaïda, à la grande époque d'Al-Qaïda, donc au début des années 2000, en disant la drogue a deux avantages. Le premier, c'est que ça nous rapporte de l'argent, donc ça nous permet de financer nos actions de guerre. Et le deuxième intérêt, c'est que ça détruit les gens qu'on est en train de combattre. Donc, même plus la peine de les tuer. On va leur vendre de la drogue, comme ça, ils sont détruits de l'intérieur. Donc, ça avait été théorisé d'utiliser la drogue comme une arme de guerre pour détruire les populations. Et en France, la ville où arrive la drogue, majoritairement, c'est Le Havre. Il serait intéressant de demander au maire du Havre, qui a des prétentions présidentielle, ouais. Ce qu'il pense du sujet et comment il compte le traiter.
Oui, ouais, parce que c'est et je me suis laissé dire que vous avez dit que le LFI était peut-être financé par je ne sais pas quoi là-bas, mais je me suis laissé dire que la drogue inondait aussi le produit des ventes de la drogue inondait aussi beaucoup le monde politique en France. Et c'était pour ça qu'on prenait pas beaucoup de mesures, quoi.
En tout cas, beaucoup en consomment. Des ministères aujourd'hui dans les campagnes, hein, c'est aussi un fléau dans les villes rurales. En fait, on voit que chaque décennie a sa drogue. Il y a eu longtemps l'alcool, l'alcoolisme, le vin. Après, ça a été le cannabis. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la cocaïne qui était pendant longtemps la drogue des beaux quartiers et des soirées un peu chic. Et aujourd'hui, est devenue par la baisse des prix une drogue de malheureusement de consommation quasiment courante. Et ça fait des ravages terribles.
Je sais pas
terribles.
Pourquoi, mais d'abord, ce que j'ai compris de la drogue, c'est que le cannabis, il y a 40 ans, il n'était pas très fort, mais maintenant, on le travaille pour que ça soit de plus en plus fort. Et il paraît que chacune des drogues, elle commence, ça va à peu près, puis ça devient de plus en plus violent.
C'est pareil pour la cocaïne. Mais la coca, les Indiens la mâchent, et ça leur permet notamment de lutter contre le mal des montagnes. Et aujourd'hui, elle est très très forte alors je ne sais plus quel est le nom de la dose chimique. Enfin, cette molécule-là est très présente, donc fait des ravages dramatiques.
Dramatique. Donc, c'est une attaque, comme vous l'avez dit, à la fois civilisationnelle et militaire, quoi.
Exactement. Et ça veut dire que l'armée ne résoudra pas le problème. Et c'est aussi d'ailleurs un des sujets sur la drogue. Nous, c'est un thème qu'on traite beaucoup à Conflit. Et trop souvent sur la drogue, notamment la droite a une vision purement sécuritaire, en disant on va mettre des policiers, on va régler le problème. Mais c'est pas qu'un problème sécuritaire. Quelqu'un qui prend la cocaïne, il sait bien que c'est mal. Mais c'est une drogue, donc il peut pas faire sans. C'est un problème de santé publique. Il faut mettre en place un système de désintoxication. C'est comme les gens qui fument beaucoup, ils savent bien que ça a des problèmes de santé, mais ils peuvent pas s'en passer. Donc ça se règle aussi par des questions de santé publique et pas uniquement par la matraque de la police.
Bah non.
Et alors, on parle de votre dossier sur le Golfe. On peut pas faire l'économie quand même de la guerre en Iran. Alors la guerre en Iran, on en a beaucoup parlé au début de ce conflit sur cette chaîne ainsi que sur l'Université de l'Épargne, avec toutes les conséquences commerciales, économiques, etc. On a beaucoup traité, on avait fait une émission spéciale aussi avec Xavier Roffert au début, et puis après on a dit bon, ça commence à nous brouter un peu,
on va
pas en parler tout le temps. En plus de ça, il y a des déclarations qui sont tellement contradictoires. Vous reprenez le discours de Trump d'il y a 2 heures, il va vous contredire 2 heures après, enfin bref, donc c'est
parfois
infernal.
Dans le même discours, il n'a même pas besoin d'attendre 2 heures, hein.
Oui, c'est clair. Parfois oui, même vous le prenez à la volée entre le début du discours et la fin, c'est pas les mêmes propos, enfin bref. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces derniers jours, ces dernières semaines, ça se calme un peu, mais on a aussi encore beaucoup de signaux très contradictoires. Un coup, Trump nous dit le soleil risque de se lever à 3h du matin aux alentours de Téhéran. Un coup, c'est on a trouvé un accord, vous inquiétez pas, on est en train de discuter au Pakistan. Alors déjà, quels enseignements généraux on peut tirer de cette guerre en Iran?
Alors pour ce qui concerne la France, on va quand même parler un peu de nous et moi je vois, en fait pour moi c'est une question de crédibilité. Et je vois deux éléments qui me paraissent intéressants. C'est d'abord la décrédibilisation des États-Unis et notamment de Donald Trump, qui maintenant plus personne ne le prend au sérieux. Donc on fait avec parce que c'est le président des États-Unis, parce qu'il est, il a la puissance, mais il est complètement démonétisé et décrédibilisé aux yeux du monde. Et les États-Unis auront du mal à s'en remettre. Les États-Unis, on annonce toujours leur perte ou leur disparition depuis 50 ans. Ils sont toujours là, malgré tout. Mais c'est pas une défaite militaire, comme au Vietnam ou en Afghanistan, mais c'est une défaite morale, notamment pour le mouvement MAGA, qui perd en crédibilité par les outrances. Donc ça va peser sur les États-Unis, notamment dans la région qui était une région traditionnellement très liée aux États-Unis. Et surtout, les États-Unis avaient passé un contrat avec les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, en leur disant « on fait un accord, en échange on vous apporte la paix et la sécurité ». Aujourd'hui, ils ont apporté la guerre et l'insécurité. Donc ils ont rompu l'accord moral. Donc là, il y a un grave problème de crédibilité. Si je prends le cas de la France, c'est un peu l'inverse. Et là, je m'en réjouis aussi parce que je sais reconnaître quand les choses vont mal, mais il faut aussi dire quand les choses vont bien. Et là, il y a quand même des choses très positives. La France a gagné en crédibilité. Pourquoi ? Parce qu'on a signé, il y a plusieurs années, des accords de défense, notamment avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Et ces accords de défense ont été tenus. Donc c'est quand même important quand on est un allié que lorsqu'on est on tienne nos accords de défense. On a pu voir notamment le groupe aéronaval, Charles de Gaulle, les Rafales ont été très utiles, ont protégé les Émirats, le Qatar et dans le monde aussi l'Arabie Saoudite. Donc c'est aussi bien.
Il y a
bien,
une grosse base française dans le coin.
Il y a une grosse base exactement à Abu Dhabi qui est installée depuis l'époque Sarkozy. Et donc là, l'armée française a été honorée parce que, avec ses moyens et qui sont pas aussi importants qu'on aimerait, mais qui sont quand même présents, elle a tenu ses engagements. Ce qui veut dire que pour les industriels français, c'est très positif. D'ailleurs, comme par hasard, Dassault a signé de gros contrats de vente de Rafale. Donc, c'est très bien pour toute l'industrie aéronautique, militaire comme civile. C'est très bien aussi pour toutes les entreprises françaises qui sont pas directement militaires parce que, dans l'imaginaire collectif, la France, c'est global. C'est-à-dire que si l'armée française fait quelque chose de bien, ça rejaillit sur l'image France en général. Donc même une entreprise comme Danone qui vend des yaourts, qui a pas directement part au conflit, en sort grandi par la réaffirmation de l'image française. Et j'ai pas mal d'amis qui habitent dans la région, notamment dans le Golfe, et qui me disent que la France a une meilleure image aujourd'hui. Enfin, l'image était déjà bonne, mais c'est augmenté. Et donc, eux qui font du commerce, notamment dans l'industrie, dans la finance, ils sont avocats, ils sont pris davantage au sérieux. Et ça, c'est quand même positif pour le commerce de manière générale, pour les entreprises françaises. Donc, la France a gagné une image de crédibilité.
Qu'elle avait perdu un peu en Afrique.
Qu'elle avait perdu en Afrique. Cela dit, on est gagnant au change parce qu'il vaut mieux être présent à Abu Dhabi qu'à Bamako.
Oui, ça c'est bien. Ça, oui.
Donc ça, c'est un aimant positif. Et encore une fois, je suis surpris quand j'observe ce que fait Emmanuel Macron, où je trouve que depuis un an et demi, en matière diplomatique, il fait des choses bien. Et enfin, il aurait dû faire ça avant. Mais il y a quand même des choses nettement mieux. Je regrette qu'il ait attendu la fin de son mandat pour faire ces bonnes choses.
Oui, effectivement, c'est très curieux. Bah, il a eu vraiment ce rôle très jupitérien au début de son mandat où il s'occupait d'absolument tout en même temps. Et c'est vrai que depuis qu'il vit dans une quasi-cohabitation, c'est pas tout à fait une cohabitation au sens premier, mais enfin, il peut moins être dans les affaires courantes. Et donc, il s'occupe beaucoup plus de l'international, ce qui est un peu le rôle originel finalement du président de la République. Et c'est vrai que depuis un an et demi, deux ans, il n'est pas si mal que ça dans ce rôle-là. Alors après, ça peut dépendre du théâtre dont on parle, mais effectivement, par rapport au pays du Golfe, oui, c'est pas si mauvais que ce à quoi on aurait pu s'attendre.
Et tout à fait. Et ça, c'est une bonne image de marque qui devrait durer quand même quelques années. C'est tout à fait positif pour nous.
Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que les États-Unis, leur rôle, c'était de garantir la liberté de circulation sur les mers. Et on a l'impression qu'avec les drones, ils n'y arrivent plus.
Non, alors ça, c'est un phénomène qui est en train de tout changer. On en est au début. La première guerre où les drones ont vraiment été utilisés, c'est la guerre entre l'Azerbaïdjan et le Karabakh. C'était il y a 3-4 ans maintenant, où là, on a vu pour la première fois des drones engagés de manière importante et plus seulement anecdotique, mais vraiment dans la guerre et dans la bataille. Après, il y a eu la guerre en Ukraine. Et puis aujourd'hui, cette guerre, d'ailleurs, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui donnent maintenant des conseils sur les drones et qu'ils ont perfectionné. Et ça pose des questions, j'ai pas encore les réponses, hein, mais on voit un monde qui est en train de s'ouvrir, on voit bien que tout va être révolutionné en matière militaire. La question de l'hélicoptère, par exemple, est-ce que l'hélicoptère de guerre va toujours être utile ?
Ouais.
La question du porte-avions, la question des navires, on développe des drones marins, on développe des drones, même la question de l'avion de chasse. Alors, ce qu'on voit souvent dans l'armée, c'est qu'il n'y a pas de disparition, il y a une accumulation. Encore aujourd'hui, on fait usage du cheval dans l'armée française. Donc moins que il y a deux siècles, oui. On en fait encore usage. Donc les choses ne disparaissent pas, mais il y a une accumulation. Et il est évident qu'aujourd'hui, le drone, c'est la grande machine d'aujourd'hui, ainsi que les robots mécanisés qui prennent la place des soldats. Et donc ça fait aussi moins de pertes humaines.
Oui, complètement.
Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que puisque les voies maritimes ne seront plus sûres, on va devoir tout passer par la terre. Est-ce que le contrôle de la terre va revenir un prédominant sur le contrôle de la mer?
Alors, il y aura une réorganisation qui est indéniable. Après, on peut aussi faire une attaque de drone sur des voies de chemin de fer,
oui,
ou des autoroutes.
C'est loin.
Mais c'est plus loin, voilà. En tout cas, il y a une vraie question qui est posée sur la protection du transport maritime. Ça, c'est indéniable. Et l'autre question, ce sont les assurances. On n'a pas d'ailleurs en début d'émission sur les journalistes, mais on entend dire souvent l'Iran a bloqué l'étroit d'Ormuz. Non, c'est pas l'Iran, ce sont les assureurs qui ont bloqué le détroit. Parce qu'ils ont augmenté les polices d'assurance, ce qui est normal, donc les bateaux ne peuvent plus passer parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et donc là, c'est un problème assurantiel, un problème de sécurité. Et donc là, on est face à une page blanche sur laquelle les marins et les ingénieurs sont en train de cogiter depuis maintenant quand même 3 ou 4 ans. Comment on assure de nouveau la protection des mers et la protection des navires de commerce?
Mais ça, c'est les Lloyds qui devraient s'en occuper, non?
Ah, bah, c'est la lutte sans charger.
En principe, ouais.
En principe, c'est les Lloyds. C'est marrant parce que c'est un. Donc, ce que vous dites est très intéressant. C'est-à-dire qu'on perd le contrôle des mers. Mais on perd le contrôle des mers parce qu'on n'a pas les moyens d'assurer ce contrôle des mers.
Exactement.
Ce qui est une étape de plus. Donc ça veut dire qu'on perd notre suprématie financière. Parce que si la Chine dit demain matin j'assure les bateaux, c'est eux qui vont gagner les sous.
Exactement. Bateaux avec équipage philippin immatriculé au Panama et assuré par la Chine. Pas de raison que la CMA-CGM, on peut très bien s'en passer. Hein, donc
Ben voilà, c'est ça. Je me fais du souci pour Maersk, pour ces, je veux dire, et tous ces gars-là, on voit pas très bien comment ils vont gagner de l'argent dans les années qui viennent. Comme.
Non, en tout cas, il y a un vrai sujet pour eux, et ça montre aussi qu'aucune puissance n'est jamais établie, notamment en matière économique. Donc oui, la Maersk et la CMA qui sont aujourd'hui les empereurs, peut-être que dans 5 ans, ils n'existeront plus parce que ça sera d'autres types de bateaux qui passeront.
Oui, c'est amusant ce que vous dites parce que j'ai discuté j'ai discuté avec un ami de recherche qui s'appelle Arab Aldarmaki, qui est celui qui a créé Adia, là, qui doit avoir 80 balais maintenant, et il m'a dit il y a à peu près 3-4 ans, l'embêtant avec les Américains, en parlant des Américains, c'est qu'ils sont sans Dieu. C'est-à-dire qu'il est parvenu aussi au Moyen-Orient, l'idée que c'était pas des chrétiens, que c'était des sans-dieux. Et ça, je crois aussi que ça leur a fait un mal terrible.
Oui, oui, et puis quand vous amenez la guerre chez vos alliés... Exactement. J'étais à Dubaï au mois de janvier, et tous les interlocuteurs que j'ai vus ont dit « Mais nous, on ne cesse de dire aux États-Unis, mais surtout, n'intervenez pas en Iran, ça sera un bazar immense. Et une guerre, on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit.
Bah, »
et donc, ils sont intervenus, et là, ils ont perdu toute confiance. Et la confiance, c'est comme en économie. La confiance, il faut des années pour la recréer. Ça se perd en une journée ou en une heure, mais ça se crée en des années.
Complètement.
C'est comme l'honnêteté quand on est un homme d'affaires.
C'est ça.
Que les gens aient confiance en vous, ça se perd en 30 secondes.
Oui, parce qu'il faut dire, ces pays du Golfe, ils ont énormément d'infrastructures qui sont assez fragiles. C'est pas que des infrastructures énergétiques d'ailleurs. Elles ont notamment été ciblées au début du conflit par l'Iran. Et ces pays-là n'ont pas été toujours en mesure de contrer les attaques de missiles. Vous avez des taux d'interception qui peuvent être au début entre 90-95%, et puis au fur et à mesure, ça baisse. On a vu ces taux d'interception diminuer considérablement à partir notamment de la quatrième semaine de ce conflit. Et on a aussi, d'ailleurs vous en parlez dans ce magazine, la question des infrastructures de l'eau. Donc notamment toutes ces infrastructures de désalinisation, parce que ces pays-là, ils sont dépendants à 70-90% de ces infrastructures, et il était question à un moment donné de les cibler. D'ailleurs, c'est dans un premier temps Donald Trump qui a dit qu'il allait cibler ces infrastructures en Iran, sachant qu'il y en a en Iran, mais l'Iran est considérablement moins dépendant de ces infrastructures que les alliés des États-Unis dans la région, à savoir l'Irak, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. Par conséquent, aussi, là, les Américains n'ont pas été en mesure de protéger toutes ces infrastructures. Alors finalement, les infrastructures d'eau n'ont pas trop été touchées, mais les infrastructures énergétiques, oui. Et là, encore une fois, ça a des influences considérables sur le manque de confiance qu'on peut avoir envers eux.
C'est un crime de guerre, le fait d'attaquer les infrastructures aquatiques. D'ailleurs, déjà à l'époque médiévale, la règle de la guerre, c'est qu'on n'empoisonne pas les puits et on n'empoisonne pas les sources. Donc vous voyez que finalement, la guerre n'a pas changé dans ses grands principes.
Ouais.
Donc c'était les puits autrefois, maintenant c'est les usines de dessalement. Donc on ne touche pas aux points d'eau. Et quand vous avez le président américain qui dit on va bombarder les points d'eau et on va détruire la population civile en l'assoiffant, ce sont des propos qui sont criminels parce qu'en fait il demande à faire un crime de guerre. Donc c'est extrêmement grave, encore une fois, en matière de confiance. Et effectivement, il y a plusieurs points qui ont été touchés. Il faut, si on n'a pas d'eau, on meurt en une journée et demie. Hein. Alors il y a quelques réserves, il n'y en a pas énormément. Et donc ces pays-là vivent de cette eau qu'ils vont dessaler et qu'ils peuvent boire. Et c'est absolument fondamental. D'ailleurs, on a un entretien avec une personne qui dirige des usines de dessalement, alors qu'elle a voulu rester anonyme parce qu'elle est directement concernée sur place. Mais c'est une structure qui est très complexe, très coûteuse. Il faut beaucoup d'électricité, d'énergie pour les faire tourner. Et il y a un autre problème qui se pose aussi, c'est que l'eau dessalée, elle est déminéralisée. Donc on rajoute des minéraux parce que sinon on a des problèmes après physiques. Mais il faut également boire toutes les semaines une à deux bouteilles d'eau minérale pour pouvoir avoir les minéraux nécessaires. Donc il faut non seulement avoir accès à l'eau dessalée, mais aussi accès à de l'eau minérale dont d'ailleurs une partie vient d'Europe. Mmh. Et donc ça, c'est amené par avion. Et donc, si vous n'avez pas accès à votre eau minérale, alors là, vous allez survivre, mais vous allez avoir des problèmes de santé par manque de minéraux.
D'accord.
Et donc là, on touche à une autre forme de guerre qui n'est pas le fait de tuer directement les gens, mais que de le tuer par ricochet. C'est-à-dire que je m'attaque à votre structure qui fait que vous n'avez plus à boire, plus à manger, et donc vous allez mourir.
Oui.
C'est l'inverse de la drogue, quoi.
Oui.
C'est une façon de toucher les populations civiles qui est un crime. Mmh. Mais dans le cas de la drogue, c'est fait par des criminels, parce que c'est embêtant que ce soit fait par nos gouvernements. Là, c'est... Ça se fait pas du tout. Donc, c'est une région qui est difficile depuis toujours. Je vais pas vous demander comment ça va se terminer parce que vous n'avez pas la moindre idée.
Je peux pas prévoir l'avenir. En tout cas, on peut faire des hypothèses. C'est quand même voilà. Première hypothèse, ça va se finir un peu en eau de boudin, c'est-à-dire que ça va s'arrêter et puis on va finalement s'arrêter là.
Et tout le monde va dire j'ai gagné.
Voilà, tout le monde va dire j'ai gagné. L'Iran va dire j'ai gagné. C'est vrai, l'Iran a gagné puisque le régime n'a pas été renversé. Les États-Unis vont dire, regardez, c'est j'ai gagné puisque les Trois d'Hormuz, ça a été réouvert. Bah oui, mais enfin, avant la guerre, ils fonctionnaient. Donc, ils sont revenus simplement à situation ante. Israël va dire, j'ai gagné parce que j'ai pu en profiter pour contrôler le sud du Liban et puis éliminer un petit peu le Hezbollah. Donc, tout le monde va être content.
Oui, jusqu'à la prochaine.
Jusqu'à la prochaine. Ça, c'est quand même le gros problème. Mais en revanche, là où... Ça, c'est pour la deuxième hypothèse. Pour moi, cette guerre signe une fracture qui va être très, très compliquée de résorber. La première fracture, c'était la guerre en Irak en 2003, où les États-Unis ont quand même perdu beaucoup de crédit. Et c'était il y a une vingtaine d'années maintenant, et encore aujourd'hui, ils en payent les conséquences. Et là, il y a quand même une autre fracture qui se fait, parce qu'ils vont perdre le soutien de l'Arabie Saoudite, qui est un soutien indéfectible depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils perdent le soutien des Émirats, du Qatar et d'une partie de leurs alliés européens, malgré tout. On voit bien que la parole américaine, on ne peut plus avoir confiance. Et donc, le grand vainqueur de la guerre, c'est la Chine. Pour moi, c'est quand même le principal vainqueur. Mmh. Ils vont ramasser tous les sous. Et puis, si on s'en sort bien, et là, je pense qu'il y a aussi une vraie diplomatie à mener, ça serait une alliance française et pays arabes renouvelés, une nouvelle politique arabe, puisque nous, on a tenu nos engagements. Et là, il y a un coup à mener pour les entreprises françaises et pour la diplomatie française.
Mais la Russie s'en sort pas mal parce que ils vendent du pétrole maintenant. J'ai vu qu'ils venaient de signer un accord pour fournir 20% du pétrole chinois, puis ils en ont signé un autre avec l'Indonésie, puis ils en ont signé un troisième, je crois, avec l'Inde. Donc ils ont plus tellement de problèmes avec leur pétrole, là.
Non, ils le vendent. Le problème de la Russie aujourd'hui, c'est que leur économie repose essentiellement sur le pétrole. Mm-hmm. Il y a une très forte inflation.
Oui. Les taux d'intérêt sont à 17,
je crois. Même les journaux officiels russes disent qu'il y a un problème économique. Donc c'est vous avez un journal du gouvernement, donc qui quand même, vous avez même eux le disent, donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Et un autre problème de la Russie, c'est le départ des populations. Si vous prenez Dubaï par exemple, il y avait 40 000 Russes avant la guerre en 2022, il y en a près de 400 000 aujourd'hui. En Géorgie, il y a beaucoup de jeunes Russes également qui ont 25-35 ans qui ont fui la conscription. Et donc, ils sont venus en Géorgie parce qu'il y a encore, c'est proche de la Russie, on parle russe, ils peuvent travailler. Donc, la Russie est en train de se vider de sa jeunesse entre ceux qui meurent, qui sont blessés à la guerre, et ceux qui est le haut du panier, qui s'en va pour échapper à la guerre. Et ça, sur le moyen terme ou long terme, c'est très, très grave.
Très grave. Et bien, en plus, si j'ose dire, ils n'ont pas une démographie particulièrement galopante.
Ils avaient déjà un problème démographique avant. Donc,
Est-ce que vous allez faire un numéro sur la démographie? Un de ces quatre, parce que la Corée, tout ça, ils ont il y a un immense problème qui arrive, quoi.
C'est un vrai sujet, mais la démographie, c'est un sujet qui est crucial. Malheureusement, on a peu de très bons démographes en France. Alors, il y a Gérard-François Dumont qui écrit...
Dans le temps, il avait sauvé, mais il avait créé l'INED.
Exactement, mais c'est complètement dévoyé. Donc, on manque de très bons démographes, et la démographie est un sujet qui est très compliqué à traiter. Moi, une fois, il y a 5-6 ans, on m'avait proposé à l'université de faire un cours de démographie, j'avais dit oui. Et puis, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est impossible à traiter, parce que dès qu'on aborde des sujets qui sont tellement politiquement sensibles, qu'on peut rien dire...
Vous pouvez pas le traiter parce que tout le monde vous dit vous êtes contre ci, vous êtes pour cela.
C'est intraitable. Enfin, si on veut, vous avez plein de problèmes qui
sont
posés.
C'est complètement miné.
Ah ben oui, tout est miné. C'est parce que évidemment, dès qu'on traite de démographie, ben on traite immigration, population. Enfin, que tous les sujets hyper inflammables.
Hyper inflammable parce que je me souviens très bien. Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Sauvy. Donc, je me souviens, il avait écrit un livre qui était en 1990, qui s'appelait La peste blanche, je crois plus très bien. Il a expliqué que les populations d'Afrique allaient arriver sur nos rivages en 2020 et que personne n'avait rien préparé, que c'était épouvantable et tout. Donc il l'avait vu 30 ans à l'avance. Ça se passe comme il l'a dit, mais tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. On a rien fait, mais
on a beaucoup parlé.
Hein.
Ouais. Non, c'est un sujet, on voit bien en France, qui est un sujet extrêmement inflammable, qui déchaîne les passions. Il y a un très bon démographe, c'était Gérard-François Dumont. Il y a Julien Damon, qui est une génération... plus jeune et qui est très originaire également dans sa pensée, dans sa manière. J'aime beaucoup parce que il aime bien prendre les gens un peu à rebrousse-poil et c'est très stimulant au niveau intellectuel. Bien sûr. Mais par exemple, quand on parle de dénatalité en France, c'est un vrai sujet, mais comme on touche aussi à des sujets sensibles politiquement, de morale, religieux et autres, c'est toujours très très compliqué de les traiter. On se fait attaquer de tous les côtés. Donc c'est assez pénible.
On réussit pas à savoir quel est le taux de natalité des Gaulois, par exemple.
Oui, bah ça on pourrait le savoir, mais on peut pas le dire.
Et alors, tiens, mais puisque on va peut-être terminer là-dessus, mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Toutes ces histoires mémorielles, ces lois mémorielles, ça vous empêche pas de faire des recherches? Est-ce que la première des mesures que devrait prendre un nouveau président, c'est abolir toutes ces lois?
Moi j'ai toujours été contre toutes les lois mémorielles et parce que en fait un chercheur doit pouvoir aller à un rebrousse-poil et son rôle c'est de stimuler la pensée et c'est pas aux politiques d'écrire l'histoire et c'est pas aux politiques de contrôler la vie universitaire. En fait, il y a rien de pire qu'une université d'État. Moi je comprends pas un universitaire qui est fier à travailler dans une université d'État.
Ouais.
Enfin, c'est un non-sens. Il doit y avoir une séparation absolue entre le politique et le monde universitaire. D'ailleurs, à l'époque médiéval, le politique était au Louvre et il y avait un fleuve pour bien séparer le politique de la Sorbonne, pour bien montrer le quartier intellectuel, le quartier politique. Une université ne doit pas recevoir d'argent de l'État. Le problème d'un universitaire, c'est d'être complètement indépendant de l'État. Et aujourd'hui, les universitaires qui vont chouiner et pleurer en disant « Ah, mais on n'a pas de moyens, on peut pas travailler », ben oui, vous êtes soumis à l'État, donc c'est normal. De la manière qu'il y a une séparation, une distinction entre le religieux et le politique, il faut une distinction entre le monde universitaire et le monde politique.
Mais l'embêtant, c'est que le monde universitaire et le monde politique sont tombés sous le contrôle de la même Église. Et donc, ce qu'il faut, c'est sortir l'Église dominante.
Ouais. L'Église républicaine,
Et de la politique et de l'université,
On parle du master tout à l'heure. Ce master, on l'a créé en 6 mois avec nos amis italiens parce que c'est une université indépendante et qu'on voulait faire quelque chose. On s'est mis au travail, on l'a fait.
Je peux dire
ça serait impossible à faire en France.
Moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais jeune étudiant à Toulouse, il y avait des types qui étaient rentrés, qui faisaient plus ou moins partie de l'OS, j'imagine, qui étaient rentrés dans le périmètre de l'université. Et il y avait le professeur de droit de l'université de Toulouse que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Monsieur Orliac, qui avait 2 pieds beaux, qui était là avec ses cannes, qui était tapé sur les flics pour les empêcher de suivre. Il bougeait pas beaucoup, mais enfin, il tapait très fort sur les flics en disant « Vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'université sans la permission
du recteur.
Ouais. Ouais. Mais moi, je trouvais ça au point de me dire « Les flics me suivent pas, je rentre.
Ah »
J'étais pas avec les gars de l'OS. Mais je trouvais ça au point d'avoir le vieux professeur qui tapait sur avec des cannes.
La police n'a pas le droit de venir dans une université sans la demande du recteur. C'est pour bien montrer la séparation des pouvoirs.
Il faudrait que ça s'arrête pas simplement au niveau de rentrer la police, que ça s'arrête au niveau des idées, des financements.
Du ministère et de tout ça, bien sûr.
Ce serait tellement mieux. Quoi, c'est... Donc, vive la liberté des universités et vous y contribuez, puisque vous...
Tout à fait. Bah, du voilà. coup, pour récapituler un petit peu sur votre master géopolitique, défense et sécurité, donc des cours du coup franco-italiens entre Rome et Paris, rencontre avec des professionnels de la défense, des cadres d'entreprise. C'est un diplôme, on l'a dit en début d'émission, reconnu par l'État. Vous pouvez regarder le programme du master sur le site revueconflit.com et vous pouvez avoir votre inscription ainsi que des renseignements sur avec l'adresse revue.conflit@protonmail.com.
Et surtout, vous vous abonnez. Hein.
Voilà. Vous vous abonnez et vous la abonnez. Rentrée est en septembre 2026.
La rentrée est en septembre 2026 et je crois que pour ceux qui s'intéressent à la finance, etc., à l'évolution du monde, il faut avoir des sources d'informations fiables sur la géopolitique aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, mais aujourd'hui c'est complètement...
Tout à fait.
C'est complètement, absolument... Si vous voulez comprendre le monde... Au moins, ça vous aidera.
Voilà. Tout à fait. Et c'est important de dire aussi, ce master, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire oui, que vous avez des gens de...
Exactement, là, parmi les inscrits, on a à la fois des gens qui sortent de licence et qui vont en master, mais également beaucoup de professionnels, mm-hmm. Ce qui est effectivement important. Les cours sont filmés et retransmis à distance, donc on peut très bien être en province ou dans le monde et suivre ces cours directement. Et c'est, pour nous, c'est très important aussi de former le monde professionnel mm-hmm. à ces questions qui sont fondamentales. Oui, oui.
Excellent. Et ben voilà, ce numéro de conflit, donc Golf, qui sera le maître, disponible déjà sur votre site internet et puis aussi en kiosque,
voilà,
de façon générale. Vous pouvez aussi vous abonner, enfin bref.
Non, vous ne pouvez pas aussi. Vous pouvez vous abonner.
C'est comme à l'Université de l'Épargne d'ailleurs. Il hein, faut cumuler les deux autant que possible.
Voilà. Ouais, voilà. D'ailleurs, donc, un jour, on va peut-être faire un numéro, un prix spécial aujourd'hui à l'Université de l'Épargne sur votre abonnement.
Oui, c'est prévu, effectivement.
C'est prévu.
Voilà. Et ben, je vous remercie.
Merci à vous.
D'être passé. Et je vous remercie à vous aussi de nous avoir écoutés pendant toute cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.